RMC.
Inbound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win.
Pierre Dorian.
Basket Time, votre rendez-vous basket d'RMC tous les mardis en podcast sur rmc.fr, exceptionnellement mercredi cette semaine avec Alex Biggerstaff, Frédéric Weiss.
Salut Pierrot.
Et Sacha Alix. Bonjour messieurs.
Hello. Bonjour.
On vous a fait attendre, mais vous n'allez pas être déçus. C'est un superbe numéro spécial New York Knicks. On parle jamais des Knicks, une des plus grandes franchises de la NBA, du sport américain même, quand même. On peut le dire, Alex.
C'est populaire, populaire.
Très populaire, très bling bling.
Bah oui.
Ça te plaît le bling bling, Fred?
Moi,
sais.
C'est mon truc. Mais non, je suis pas sûr que ce soit si bling bling. Pour moi, le côté bling bling, c'est Los Angeles et Knicks, c'est plutôt.
C'est col bleu.
Col bleu un peu.
T'avais passé combien de temps là-bas?
J'ai passé trois mois.
Trois mois.
Même pas un mois, je crois, sur la.
T'en as un bon souvenir avec le recul ou c'était relou?
J'ai pas vu du tout la ville en fait.
On non, était non, mais ton expérience. Ton expérience de jeune basketteur.
Cool. C'était super cool.
Vraiment?
Les tenues étaient incroyables. Franchement, j'étais content de revenir avec.
T'as des regrets ou aucun regret aujourd'hui?
Aucun regret, c'est un choix. Donc non, il n'y a pas de regret sur un choix.
Pour ceux qui ne le savent pas, nous avons quand même un monument du basket français qui a été drafté par les New York Knicks dans ce podcast. C'est pas donné à tout le monde. Je pense qu'il n'y a pas d'autres français si Nilikina. Nilikina a été drafté par les Knicks.
Ouais, ouais.
Alors, le programme
ça
spécial.
A bien marché
aussi, si tu veux, on peut faire un débat qui a le plus laissé son empreinte.
Là,
à New York.
La trace est énorme.
Mais moi, Nilikina, je fais que la Summer League, j'ai rien fait de mal, moi.
Le programme, les Knicks gagnent et les Knicks défendent. Est-ce que ça va tenir sur la durée? C'est le premier débat. On se projette sur la saison des Knicks. Jalen Brunson est-il sous-coté? Alors là. Tous les fans des Knicks vont monter au créneau. Ils attendent impatiemment ce débat. Jalen Brunson est-il sous-coté? Et puis dans la partie historique, bah justement, vous allez me parler de ces lieutenants devenus numéro 1 comme Jalen Brunson. Vous avez le choix, hein, mais il y a des histoires très particulières en NBA. Et on se retrouve dans la partie historique pour en parler. Quiz spécial New York Knicks. Il n'y a pas de surprise.
Surprenant.
Il n'y a pas de surprise, justement. C'est tous les mardis en podcast sur rmc.fr. Et cette semaine, donc, nous sommes à New York.
Les Knicks are coming, y'all. They are coming.
Randle drives. Randle inside. Count it and a foul. Julius Randle.
The Knicks, they're on a 9-game winning streak and 15-2 since the beginning of January. That is the best record in the NBA.
It's Brooklyn and Anobi. Randle up ahead. Bounce. Back to Randle. Hammer jam.
Incredible defensive sequence by the Knicks.
That's the franchise's best run since 1969.
DiVincenzo long three, pucks it in. And Anobi's first shot, he loves those corners.
Welcome to New York, this is what the people want to see.
Basket Time spécial New York Knicks, des Knicks 4e à l'Est qui ont trouvé leur rythme de croisière malgré une cascade de blessés, malgré un effectif réduit à la portion congrue par Tom Thibodeau. En gros, ça joue à 7 et ça défend comme des chiens. Est-ce que ça peut tenir sur la durée cette belle équipe des Knicks qui est quand même déjà assez agréable à voir jouer, toi Fred, qui aime le vrai basket?
Ah ben ça joue au basket, clairement, c'est très européen dans le style de jeu, j'ai envie de dire, ou quasiment. Ça joue très peu, comme d'habitude. Thibodeau, il aime bien tirer sur ses joueurs, donc c'est assez logique. Je ne sais pas quoi répondre à ça, parce qu'en théorie, oui, ça peut tenir, sauf qu'ils ont tellement de blessés.
Alors, la liste des blessés, aujourd'hui, Jalen Brunson s'est blessé la nuit dernière.
Ouais, donc,
c'est pour ça qu'on a décalé le podcast. On ne voulait pas faire le podcast sans cette info. C'est-à-dire qu'avant que Jalen Brunson se blesse, évidemment, c'est
pas la même chose. Tu savais qu'il allait se blesser, donc tu as préféré repousser une journée.
Et moi, on n'est pas le podcast numéro 1 de basket dans le monde pour rien. Non, mais c'est vrai que. Alors, on ne sait pas encore si sa blessure est grave. Sur les images, on voit que c'est une entorse. Ça n'a pas l'air d'être une très grosse entorse, mais ça, on ne peut jamais savoir. Hein. Donc, c'est quand même une donnée à prendre en compte, parce que ça s'ajoute à Julius Randle, Mitchell Robinson, Quentin Grimes, Oji Anunoby et Josh Hart, même si ça c'est moins impactant. Mais Jalen Brunson, faudrait pas qu'il soit blessé sérieusement, ouais. Sinon on arrête le podcast tout de suite. Quoi.
Ça fait beaucoup de monde quand même au bout d'un moment, mais c'est aussi le prix à payer quand tu joues avec Thibodeau aussi, hein. On a toujours parlé de l'usure. Hein.
Ah non, c'est très dur de jouer pour Thibodeau, hein. Soit tu joues pas, demande à Evan Fournier, soit tu joues trop et c'est très compliqué. Et donc effectivement, si tu ne récupères pas tous les joueurs pour les playoffs, ça va être compliqué. Forcément.
Après, c'est pas un mec qui a la réputation d'être souvent blessé, hein, depuis qu'il est passé pro
Brunson.
Et tout. Brunson, il a pas cette réputation-là.
La chance, c'est qu'il y a le All-Star Break qui
arrive. Là, il va pouvoir souffler un petit peu comme tout le monde. Ils vont pouvoir récupérer des joueurs aussi.
Ouais, mais sélectionner son premier All-Star, je pense qu'il serait très déçu de pas le faire. Hein.
Mais il va pas le faire. Là,
attends, tu connais la personnalité du garçon.
Oui, non,
bien sûr qu'il serait déçu, mais c'est pas du tout ce type de mentalité.
Non, je suis d'accord. Sauf qu'il a été à deux doigts des larmes quand on lui a posé la question quand même, hein. Donc oui, effectivement, sa mentalité, c'est pas comme ça normalement, mais on lui a tellement tiré à boulet rouge dessus qu'à un moment, ça lui fait plaisir quand même d'être All-Star.
Alors, si on prend en compte, si on prend en considération qu'ils peuvent disputer la fin de saison à peu près avec leurs forces vives, qu'est-ce que vous voyez de possible pour cette équipe d'Enix, Sacha?
Ouais, je dirais, ça reste l'Enix quand même, mais je le dis avec énormément de respect pour eux, même s'ils ont trouvé ce style de jeu, je pense que ça, ce sera un petit peu à l'image de leur saison 2021, où ils sont au premier tour, ils sont sortis par les Hawks. Là, s'ils ont un tirage favorable au premier tour, je pense qu'ils peuvent aller, on va dire, en demi-finale de conférence, aller au-delà de ça. Je pense que les,
difficile.
Ouais, les équipes de l'Est qui est à côté, je trouve que c'est à peu près les mêmes niveaux de certitude, mais avec encore des joueurs meilleurs que les Knicks. Donc, pour moi, ils ont pas de quoi passer ce palier-là, mais au moins passer un tour, ce qui pourrait être une bonne nouvelle.
Attention,
pour
parce que Philadelphie, je pense, on peut les oublier maintenant.
Ouais, c'est cuit.
Ah, on est d'accord.
Logiquement, c'est
donc,
cuit.
Donc, il reste Boston, il reste Milwaukee. Est-ce qu'il y a d'autres équipes meilleures que les Knicks?
Moi, je suis désolé, mais Milwaukee, par exemple, c'est pas du tout une équipe qui m'impressionne. C'est une équipe qui fait même peur, je trouve, parce qu'elle est pas du tout rassurante. En plus, Doc Rivers, on sait que les playoffs, c'est pas forcément son truc.
Moi, ouais, je vois les Cavs bien jouer. Non plus.
Ouais, je pense
parce
que
qu'ils vont arriver cramés. C'est
mais
ce
ils vont
passer
arriver
en 2021.
Si cramés que ça, parce que justement, il y a des joueurs qui vont revenir. Si Mitchell Robinson revient, par exemple, ça peut être hyper intéressant. Franchement, il pourra aider. Julius Randle va revenir et il aura eu un petit break, justement. Alors oui, il se sera soigné, mais il se sera reposé aussi. Je pense qu'ils arriveront un peu moins cramés que prévu, finalement.
Quel avenir tu leur vois, Fred?
Moi, je pense qu'ils sont à un trade de la finale de conf.
À un trade de la finale de conf, mais la trade deadline, c'est ce soir.
Ouais,
hein.
Bah,
Maniez-vous. Les gars. Alors, c'est pas nous qui allons apprendre quand même que ça bouge au dernier moment et ça bouge complètement follement.
Ouais, tu sais qu'il y a une rumeur LeBron, non?
Comme package, là.
Bah, t'as plein de packages. Rappelle-toi quand RJ Barrett et Quickly sont envoyés pour Anunoby.
Que des mecs blessés en contrepartie.
Laisse-moi terminer déjà. donc rappelle-toi quand ils font le trade pour Anunoby, on dit ils ont plein de tours de draft. Pourquoi ils mettent Quickly, pardon. Bah, là, t'as Fournier, t'as Grimes, t'as des tours de draft. Il y a un package à faire, franchement.
Et alors, tu ferais quoi, toi?
Bah, déjà, je vois Fournier et Grimes et des tours de draft. Et je, bon, honnêtement, comme ça, je tenterai DeMar DeRozan.
Ah ouais.
Un joueur de ce calibre-là contre ce que t'as dit.
Ouais.
T'as pas peur que ça casse un peu l'alchimie? Bah,
franchement, ils n'ont pas de chance de faire grand-chose. Je pense que Vucevic, je serais content de récupérer Evan Fournier.
Bah, comme Lavine out, peut-être qu'ils veulent le passer, oui. Mais
oui, je pense qu'ils ont abandonné la saison un petit peu, les Bulls. Je me dis que ça pourrait être vraiment très, très bien.
Mais après, franchement, les tours de draft, est-ce qu'ils valent quelque chose? Parce que pour une fois, ils font une bonne saison. Donc, a priori, le tour de draft ne va pas offrir un pic monstrueux. Est-ce que ça va vraiment faire la différence? Est-ce que ce ne serait pas le risque de casser ces profils de underdog quand tu regardes un peu toute cette équipe? DeMar DeRozan, c'est quand même un nom par rapport aux autres. Il y a beaucoup de trucs qui vont avec. En fait, l'histoire de cette équipe des Knicks, c'est qu'au final, personne n'avait un nom quand ils sont arrivés là-bas.
Ouais, mais
ils sont faits.
Tu dis quand même qu'ils sont limités, que tu les vois
ils
pas
ont
les
besoin
plus
d'une autre solution offensive. Ils ont besoin d'une autre solution offensive, c'est clair.
Ils vont beaucoup utiliser leurs joueurs principaux parce que quand ils vont arriver en play-off, il y a des équipes qui vont entre guillemets vraiment appuyer l'accélérateur, que ça fait un moment qu'ils sont pas en play-off, qu'ils essaient plutôt de sortir la tête de l'eau. Donc je pense que ça va faire le même scénario qu'on a eu en 2021 où vraiment Randle, il est exceptionnel, et même la saison des Knicks est exceptionnelle, mais il leur manque quelque chose et
il leur manque un joueur et une option offensive. C'est exactement je suis complètement d'accord avec toi. Ils sont à un trade de faire une
après si t'es sur une année de transition, tu peux avoir aussi un petit coup de poker, un coup de chance, et tu tombes du bon côté du tableau, t'évites Boston et
plus,
tu te retrouves finaliste de conférence, hein, ça va très vite.
Non,
comme
ça peut aller très vite aussi. Mais pour être sûr, pour avoir cette certitude, pour moi, tu fais un trade et ils ont de quoi faire ce trade et ils peuvent aller en finale de conf.
Parce que le but, quand même, c'est pas de se contenter d'une demi. Tu peux pas.
C'est pas vraiment un objectif. Oui,
bah, c'est pas vraiment un objectif. Donc, c'est pas bête ce qu'il dit, Fred, finalement. T'as réussi une saison au-delà de tes espérances.
Tu et
pourquoi pas tenter un coup de poker? Parce que DeRozan, c'est 34 ans. Je veux dire, si ça marche pas, c'est pas un drame non plus.
Exactement.
Ce qui m'inquiète, je suis d'accord avec ce que dit Fred, mais ce qui m'inquiète, c'est que le transfert d'Evan Fournier ou d'autres pièces rapportées, on en parle déjà depuis plus d'un an. Et ça n'a jamais été le cas. Ils n'ont jamais réussi à trouver bonne pièce en échange. Pourquoi ils trouveraient en 24 heures?
Non, mais tu peux tenter. Parce que c'est beaucoup trop cher.
Oui, peut-être, mais tu sais que il y a des tractations depuis très longtemps.
Tu sais très bien que ça fait des années qu'on parle de son départ et d'un possible.
Ah non, mais bien sûr.
Alors, bah, des années de transfert ailleurs, ils trouvent jamais. Et tu restes bloqué. Et je vois pas comment.
Mais tu fais un package, je te dis, avec certains tours de drive, avec Grimes.
Aussi rapidement près de la deadline, ça veut dire que tu perds. Ça veut dire que tu acceptes une concession.
Et puis même,
Ah oui, tu te places en position de faiblesse. Ouais.
Je pense que de par expérience, les Knicks sont vraiment rarement gagnants dans les trades. Là, on va me parler de l'exemple d'Anunobi parce que oui,
aujourd'hui, je suis pas sûr déjà.
Non, mais aujourd'hui, il est probant et c'est ce qui emmène cette dynamique de ouf chez les Knicks. Mais quand le trade il se fait, tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ?
Non, mais c'est même un très bon trade parce qu'il joue mieux depuis qu'il est arrivé. Mais perdre Quickly en plus de RJ Barrett, moi, je trouve que c'est un peu cher.
Ils sont vendus. En général, ils sont obligés de faire ça, les Knicks, dans leur histoire, ils sont obligés de sur-envoyer des mecs quand ils ont ramené. Parce que quand ils ramènent Carmelo, ils ont envoyé les trois quarts de l'équipe. Ça a toujours été ça, leur histoire. Donc je pense qu'ils vont vraiment avoir du mal à avoir un coup où ils réussissent à se mettre bien. En général, personne ne met bien les Knicks sur les trades. Et même eux, ils sont enfermés dans des salaires faramineux, des choses comme ça, des tours de draft qui ne vont pas valoir grand-chose. Je pense à difficile. Par contre, signer un mec qui se fait couper, un vétéran, un free agent, qui peut se retrouver là comme une pièce qui apporte de l'expérience justement dans les playoffs, ça j'y crois beaucoup plus qu'un trade vraiment gagnant.
En dehors d'un trade hypothétique, Alex, tu les vois faire quoi cette saison ? Pas mieux qu'une demi ?
Oui, parce que on va en parler peut-être, mais leur défense quand même est à souligner, il faut dire un mot là-dessus. C'est toujours une arme impitoyable pour aller en playoff et aller essayer d'aller loin. Donc faire une demi, ça serait un peu de base. Tout ce que tout le monde envisage en fait pour eux. Donc l'idéal pour eux, moi à mon avis, c'est s'il y a une chance sur la partie de tableau qu'ils évitent Boston, qui est l'atout intouchable en fait de cette conférence.
Complètement, c'est les seuls.
Moi je dis que les Knicks en finale de conf, c'est pas si impossible que ça.
Mais pas plus, pas être champion.
Non.
C'est impossible.
Non,
après, tu croises la route avec Boston. C'est compliqué. Quand
non, alors, et après, tu te pars si l'Ouest.
Après, il y a un sous-débat qui nous intéresse, nous, les Français. C'est que si Evan Fournier y reste, qu'il ne joue pas une minute, est-ce qu'il peut faire les Jeux Olympiques ? Là, maintenant, la question, elle se pose réellement. Là. Ah, vous êtes bien embêté là.
Ça tient à lui.
Tu m'avais posé la question il y a peu de temps. Je t'ai répondu, tu répondrais la même chose. Moi, je ne le prends pas.
Tu ne prends pas ?
Moi, je ne le prends pas.
S'il joue pas de la saison ?
Depuis un an et demi.
C'est-à-dire une préparation avec son expérience, sa connaissance des Bleus, ça ne suffit pas.
Ben non, il faut jouer, il faut être dans le coup, il faut se mettre en rythme, se mettre en confiance.
Pourquoi Vincent, il va le voir alors ?
Ben justement, pour voir ce qu'il en est. Alors justement, il attend peut-être la trade deadline, peut-être que lui, il a des infos qu'on n'a pas, mais concrètement. Je sais pas.
Parce que Vincent Collet aussi, il a besoin d'un shooter quand même. Parce que bon, Nando est pas au mieux non plus.
Vincent, rarement, il aime pas trop se passer de cadre en plus.
Et puis bon, le côté intérieur, tout va bien.
Il a pas joué depuis un an et demi. C'est ce qu'il expliquait, Vincent Collet d'ailleurs. Il dit, ok, tu rates 6 mois, 6-8 mois, c'est une grosse blessure. Sauf que tu joues pas un an et demi, c'est autre chose.
Ouais, mais à l'Euro, il jouait pas et il a pris tous les ballons. Enfin, ça shoot dans tous les sens.
C'est au mondial.
Ouais, pardon, au mondial, autant pour moi. Mais à chaque fois, il a eu beaucoup de responsabilités et son temps de jeu NBA, c'était pas la base de son rôle en équipe de France. Changer son rôle, je pense que c'est important.
C'est ça ton problème. Tu n'as pas écouté ce que j'ai dit. Je vais répéter ce que j'ai dit. Vincent Collet a dit quand tu ne joues pas 6 mois, tu peux revenir parce que c'est comme une grosse blessure. C'est ce qui s'est passé pour le mondial. Là, depuis le mondial, il ne rejoue pas. Donc ça fait un an et demi sans jouer.
Ouais, mais
là,
si le mec va le voir, c'est qu'il a peut-être un plan pour lui. Alors peut-être que le rôle sera différent.
Qu'il sera pas là.
Bah oui, alors tu vas faire des grands déplacements pour dire bah tiens, toi je vais pas te prendre, je vais te l'expliquer.
Mais il mériterait pas le respect qu'on aille lui dire en face, Evan Fournier, vraiment.
Mais oh, putain, on parle d'une sélection, il est pas en train de le virer de l'équipe de France quand même, doucement.
C'est la sélection de sa carrière, peut-être quand même.
C'est les JO de Paris, hein, ça.
Non, mais je veux dire, de toute façon, on sait qu'il y aura des détections, s'il fait ses preuves, faut le prendre, enfin, faut arrêter après le rôle du cadre, etc. Bah, faut voir ce que ça donne. Il y en a qui.
Oui, donc
il y a peut-être des mecs qui vont faire des super saisons et qui, dans des échéances internationales, vont être tout pourris et tu vas laisser ça.
Est-ce que vraiment Vincent Collet peut, au mois de juillet, dire à Evan Fournier, bah non, c'est Nadir Rifi qui part avec nous.
Bah j'espère que ce ne sera pas Nadir Rifi qui
prendra.
Non,
mais tu vois ce que je veux dire, un profil de mec totalement inexpérimenté. Pourquoi t'espères que ce n'est pas Nadir Rifi ?
Parce qu'il est sous-dimensionné physiquement, parce que c'est un poste 2 qui fait 1m80.
Après, il faut un début à tout. Hein. Il a rarement fait ce genre de choses. Peut-être.
Mais peut-être que c'est le moment. Ils ont prévenu. On va tout casser. La préparation sera meilleure parce qu'on va affronter des vraies équipes. Kenny Atkinson qui arrive dans le staff pour aider un petit peu. Je me dis que peut-être que c'est le moment
de prendre
si on vient au Knicks, toi tu dis ils ont besoin d'une option offensive de plus, pourquoi il ne fait pas jouer Fournier ? C'est, il ne peut pas leur apporter quelque chose là ?
Ben, on a parlé d'une option offensive, mais quelqu'un qui défend quand même un peu. Donc ouais, peut-être que pour Thibodeau, en tous les cas, je ne suis pas en train de juger là, c'est Thibodeau. C'est rédhibitoire la défense d'Evan Fournier.
C'est pour ça qu'on ne comprend pas non plus pourquoi ils n'ont pas tradé.
En même temps, tu as vu comment ils l'ont utilisé ? Quand ils jouaient, tu as vu comment ils l'ont utilisé ? Exactement comme il n'a pas été utilisé, Evan Fournier. Donc c'est compliqué.
Faut y penser, dans les choix de Thibodeau, typiquement, il est capable de mettre en meneur titulaire à l'époque Elfrid Payton. C'est un joueur sur lequel personne n'aurait misé. Mais comme le gars était super athlétique, que défensivement il apportait, il avait un rôle de choix dans l'effectif de Thibodeau. C'est des profils qu'il adore, et c'est vrai que le profil d'Evan correspond beaucoup moins à ça.
Et dernier point à aborder, tu as évoqué la défense, mais c'est le peu de rotation quand même. Est-ce que c'est pas suicidaire de jouer? Il y a des titulaires qui font 40 minutes certains soirs, hein, après ça, voire plus. Hein.
Ça, Pierrot, on le dit depuis la nuit des temps,
c'est
avec Thibodeau.
C'est Thibodeau. Hein.
C'est Thibodeau. Il a déjà été élu coach de l'année avec cette méthode-là, avec les Knicks, il y a 4 ans. Moi, je trouve d'ailleurs qu'à titre de comparaison, cette saison-là, en ce moment, elle ressemble à ce que disait Sacha tout à l'heure, 2020-2021. C'est quand il éclate tout avec les Knicks. Et je pense qu'on a à peu près les mêmes mots à propos de New York à l'époque, en disant « Ouais, il a trouvé une formule, c'est sa patte, c'est la patte Thibodeau, c'est rotation courte, ça défend énormément. Bah, » là, c'est les mêmes profils, en fait, j'ai l'impression de retrouver ça.
Et au-delà de ça, ça ressemble vachement même aux Bulls de Thibodeau avant ça, à l'époque de Derrick Rose, à l'époque de Lou Holdeng, à l'époque de Carlos Boozer, de Joakim Noah, tu retrouves un petit peu tous ces profils. Meneur, d'ailleurs, grosse dédicace à Max là-dessus, mais t'as un meneur.
Dédicace à qui t'as dit?
À Max. Un ami avec qui on parle beaucoup des Knicks, c'est justement le parallèle.
Ah, le mec fait passer ses messages perso. Oui, non, préviens-moi avant, parce que je pensais que c'était une référence basket que j'avais pas, je commençais à complexer.
Non, mais du coup, les parallèles sont bons. Brunson et Rose, c'est des meneurs ultra dominants qui ont beaucoup le ballon, qui peuvent scorer, qui peuvent gérer le jeu. Boozer qui se tape, qui peut créer son 1 contre 1 un petit peu comme Randle. Un intérieur qui se bat, qui est beaucoup dans le combat, Joakim Noah, Mitchell Robinson. Tous les parallèles se voient.
Hartenstein aussi.
Oui, aussi. Mais non, ça marche sur toutes les rotations. Et le point commun, c'est Taj Gibson qui a fait les deux équipes. Et tu retrouves vraiment en fait tout l'univers de Thibodeau dans cette équipe des Knicks.
On n'a pas parlé de DiVincenzo, là, qui est sur une série incroyable.
Voilà.
Je ne sais pas si vous vous souvenez, en début de saison, dans un quiz, pour voir si vous aviez bien suivi, oui, j'avais posé des questions sur des joueurs un peu obscurs qui avaient changé de franchise, dont DiVincenzo, c'était le néant. Et le mec est un joueur majeur, pratiquement on peut le dire maintenant, de New York.
Ah bah sur les 5 derniers matchs, il est juste
monstrueux.
C'est incroyable.
Ouais, c'est un mec qui était sur le banc à Golden State, qui grappillait des miettes. Quoi. Et là, c'est pareil, il a une identité, mentalité de joueur col bleu, ça fond avec le décor New York. Et Thibodeau on va en faire des miracles.
Et Randle n'est pas là aussi. Donc
spécial New York Knicks. Nous allons maintenant parler de Jalen Brunson.
Jalen is playing at a more than an all-star level this year.
From the New York Knicks, Jalen Brunson.
Hey, first all-star appearance in his sixth season.
I was hoping I got that.
And should be in the MVP conversation.
Good for him, man. Well deserved.
Get that one to go. Brunson, nice push pass. And Randle throws it down. Hits a play for Brunson. And Brunson gets passed on. Layup is good. And a foul. Brunson, a three is good. Jalen Brunson.
I got Jalen Brunson, a legitimate league MVP candidate.
Rebound, back out to Brunson. His three. Bang! Jalen Brunson from downtown.
32.6 points, 63.3 assists, 4.1 rebounds. The brother needs some serious MVP love.
Jalen Brunson est-il sous-coté? Voilà un débat qui a été réclamé par les fans des Knicks qui écoutent Basket Time parce que c'est leur idole. Est-ce que c'est le franchise player ou est-ce que c'est Julius Randle aujourd'hui?
La question se pose même pas, c'est Brunson le franchise player.
La question se pose même pas?
Non. Bah non.
Vraiment?
Ouais.
Mais alors Randle...
Allez, merci, au revoir, c'est sympa.
Personne ne respecte ce mec, c'est incroyable.
Ah non, moi je l'adore, mais c'est plus lui qui a la cape du héros, il faut l'admettre.
C'est peut-être mieux comme ça.
Oui, je pense que sinon, après, il avait trop de pression sur lui. Les fans des Knicks sont très très durs, c'était très compliqué, alors qu'il a fait de très belles choses avec les Knicks.
Ouais, ils étaient durs avec lui quand même. Ils étaient vraiment durs avec lui.
Ouais. Alex ?
Non, mais on va pas remettre en question les qualités de
T'as envie de massacrer Randle parce qu'il t'a énervé quand il était au Lakers.
On va pas remettre en question
qualité de Julius Randle. Maintenant, si tu veux parler de l'humain, et ça va être un facteur très important dans cette équipe, il n'y a pas photo, nuit et jour, les yeux fermés dans une rue étroite et sombre, je suis Jalen Brunson plutôt que Julius Randle.
Mais qu'est-ce que tu ferais dans une rue étroite et sombre?
C'est New York, les rues étroites et sombres, mec. Ah, là, là.
Les deux peuvent avoir un petit peu le même destin.
New York, c'est loin.
C'est-à-dire le même destin, c'est-à-dire que je pense que les deux sont capables de faire une saison qui vaut d'être MVP, ne seront pas MVP parce qu'ils vont avoir les défauts des qualités des Knicks, c'est-à-dire que comme C'est une des équipes qui joue sur le tempo le plus lent de la ligue. Statistiquement, forcément, c'est des joueurs qui vont en pâtir par rapport aux autres joueurs, aux autres équipes modernes qui jouent sur un rythme beaucoup plus rapide, donc qui marquent plus de points, font plus d'assists, prennent plus de rebonds. Moi, je suis désolé, mais la saison de Randle où il met les Knicks en playoff à la 4e place, pour moi, ça mérite d'être MVP tous les jours.
Alors,
ça
en tout cas, c'est sa meilleure saison statistique à plus de 27 points quand même.
Meilleure progression.
4 rebonds, 6 passes et demi.
Et là, Brunson, en fait, c'est un petit peu pareil. C'est que dans le contexte des Knicks et dans le jeu des Knicks, c'est clairement un MVP désigné dans ce qu'il fait, des meilleurs joueurs de la ligue, un mec qui porte son équipe à être meilleur et à les ramener en playoff. Sauf que derrière, tu vas avoir les stats faramineuses que vont poser des Jokic, que vont poser des Embiid, etc.
Mais j'ai entendu.
C'est la même catégorie quand même, Brunson. Moi, j'adore. Je suis un grand fan.
Alors,
un énorme
toi, c'est pas
fan.
La même catégorie de joueurs.
Tu peux pas comparer avec Jokic, par exemple. Tu peux pas comparer avec Embiid.
Mais non, mais l'impact, je veux dire, Embiid, je suis d'accord avec toi. T'as raison. Embiid et Jokic, c'est des cas à part, c'est des ovnis, etc. Mais quand un mec comme Brunson débarque en étant personne à New York, avec des joueurs autour de lui qui ne sont pas des superstars, avec une équipe...
Il signe quand même 4 ans à 104 millions, c'est pas non plus personne. C'est un pari.
Ça reste
long terme.
Ça reste la deuxième option de Dallas.
Tu prends son père quand même dans le coaching staff pour pouvoir négocier avec lui. Enfin, je veux dire, un petit peu plus qu'un pari quand même.
Oui, mais t'as misé sur un underdog, ce qui est très fort de la part des Knicks, et derrière...
Ce qui n'est pas en plus la culture des Knicks.
Bah si.
Ils ont pris quand même des méga stars.
Brunson à New York, c'est le film parfait.
Qui se sont brûlés les ailes.
Ouais, mais ils l'ont payé justement. Et KD en a parlé justement. Il y avait un fan qui l'a interpellé sur Twitter, Kevin Durant. Il a dit ouais.
Sur quel compte
Je sais plus. Il disait mais pourquoi t'es pas venu à New York? T'aurais vécu ce que vit Brunson actuellement. T'aurais été notre star. T'aurais été notre gars à nous. Et KD a répondu très justement. Il a dit non, ça se passe pas comme ça à New York. À New York, on adore les underdogs. On adore ceux qui sortent de nulle part parce que vous leur mettez la lumière. Mais quand t'arrives avec déjà la lumière à New York, c'est beaucoup trop compliqué.
Ben, c'est vrai.
Finalement, c'est ce qui se passe. Randle, ça a été l'histoire de ça. Brunson, c'est un peu le vice repetita.
Mais alors, est-ce qu'on parle d'un...
Il a adoré. Hein.
Oui, adoré, mais il n'a pas fait gagner. Au final, tu gardes un peu...
Non, mais il a laissé une trace quand même.
Un goût un peu amer de son passage.
Bon, toute sa carrière, de toute façon.
Stoudemire est arrivé... C'était encore plus fort que Melo, moi, je trouve, quand il arrive au Knicks. Stoudemire, quand il arrive, il n'a pas, on va dire, la réputation d'un Melo. Mais il arrive, il pose des stats de MVP. Et quand Melo arrive... Ça nuit un petit peu à Stoudemire, mais lui, il avait ce truc-là.
Mais est-ce qu'on parle d'un joueur sous-coté pour toi, Alex, en Jalen Brunson ?
En fait, c'est toute la difficulté de la question. Je ne dirais pas qu'il est sous-coté, mais je pense qu'il est à sa juste valeur. Il ne faut pas le voir trop plus beau qu'il ne l'est non plus. On rappelle quand même que c'est un garçon qui a intégré Team USA, qui a été en partie responsable aussi de l'échec de Team USA à la dernière Coupe du Monde. Moi, je n'ai pas oublié ça. Il m'avait énormément déçu l'été dernier parce que la demi contre le Canada, c'est quand même... beaucoup pour sa pomme.
C'est
beaucoup pour sa pomme. Une attitude un peu trop individualiste alors que justement il était sur le plan international. Et puis en fait cette saison, quand je le vois dans cette position-là parfaite et un univers qui lui correspond,
le contexte est parfait pour lui. C'est le contexte parfait.
Forcément,
pour lui.
Ça va te sublimer un joueur.
Donc,
il n'est pas sous-côté
dans le
c'est
sens où
c'est un très bon joueur.
Ça ne sera jamais une superstar.
Ça sera jamais une superstar.
Mais il peut pas être sous-côté.
Ça sera jamais une superstar. Si New York est champion.
Eh ben, ça sera jamais une superstar.
Donc toi, pour toi, c'est pas un joueur qui va porter New York au titre.
Non, il fait partie des très bons joueurs.
Ça va me faire vraiment bizarre ce que je veux dire, mais je suis d'accord avec Sacha. Quand le mec est All-Star, tu peux pas dire qu'il est sous-côté. C'est impossible. Le mec
non,
qui
il est
reconnu,
sous-côté
moi,
parce qu'il est pas du tout dans la même catégorie Curry, Durant, Giannis, Jokic, Doncic.
Il fait pas partie de cette caste. C'est comme ça.
Donc il est pas sous-côté.
Il est pas sous-côté. Il est effectivement, je rejoins Alex. Il est où il doit être. Et le contexte ultra favorable du Madison, de ses cols bleus, de Tom Thibodeau, eh ben ça le met encore plus en valeur.
Un autre mec qui est All-Star et qui joue pas très loin de Brunson, Tyrese Maxey. Si tu dois construire une franchise,
quel est le meilleur?
Moi je prends Maxey.
Bah voilà.
Il est meilleur.
Tu prends Tyrese Maxey tous les jours, je pense.
Plus jeune.
Pourtant, les deux vont être All-Star. Ouais. Les deux font des saisons incroyables et tout, mais tout le monde va te dire Maxey.
Tu sens qu'il y a un plus gros potentiel.
Il est à sa juste valeur.
Et je pense que Maxey peut s'adapter à n'importe quel contexte. Oui. Alors que Brunson, je demande à voir.
Donc, on a réglé son problème, lui. Jalen Brunson, c'est
mais
deuxième
fois,
chapeau.
All-Star. Il faut relativiser un petit peu.
Mais attention, le deuxième chapeau, c'est là où il y a la majorité des bons joueurs NBA, c'est-à-dire que le sommet, c'est la minorité.
Ah
c'est
bien sûr.
Après, tu peux inverser la question, Pierrot. Est-ce que c'est pas non plus le signe d'une grande, grande force qu'un mec comme lui arrive à faire de New York allez, on va dire, un prétendant aux demi-finales de conférence ou voire finale de conférence.
Non, mais là, moi, ce que je vois dans la question, c'est que pas une fois, vous me les avez envoyés au-delà d'une demi-finale. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de, il y a une sorte de défiance quand même.
C'est une barrière psychologique.
Non, mais on en parlait tout à l'heure. Qui est sûrement lié à l'identité de ces joueurs majeurs. Puis, parce qu'aujourd'hui, Randle Brunson, personne ne va les comparer Di à Doncic, Jokic et compagnie.
Tu penses que... Voilà,
non, c'est pas une critique. C'est assez significatif de ce que c'était. Équipe des Knicks.
C'est pour ça que je me répète, ils sont à un trade de faire une très bonne équipe.
C'est pas faux. Ils ont cette étiquette, les Knicks. Ça reste quand même, ça reste une franchise un peu de la lose, mais malgré tout l'emblème que c'est.
Franchise de loser.
Tu vous disais tout à l'heure, c'est un peu le PSG de la NBA, c'est-à-dire que
plus loser que les Hawks.
Bon, arrêtez, monsieur. Mais non, c'est, il y a tout ce contexte. C'est que on est trop habitué à les voir perdre pour imaginer que le miracle et que la belle histoire du petit poussé avec Brunson et Randle.
Donc seul un exploit historique pourrait éventuellement changer ça.
Ou des blessures à Toronto qui devient champion.
Juste
tu vois.
Le seul truc historiquement parlant que j'aime bien en ce moment chez les Knicks, c'est qu'ils laissent enfin le temps au mec qui est en place.
Thibodeau,
je ne sais pas si vous vous rendez compte combien de coachs ont eu la chance de faire 4 ans en plus à New York. Et le duo Leon Rose, Tom Thibodeau, alors après c'est un style particulier, tu vis ou tu crèves avec, hein, mais les seuls mecs qui sont restés autant de temps, c'était Pat Riley, Mike Dunleavy, c'est à chaque fois des styles très particuliers.
Après, ça marche aussi. C'est plus facile quand ça fonctionne, parce que finalement ils sont dans les attentes de New York, donc pourquoi remplacer un coach qui fait ce qu'on lui demande.
Ouais, mais à New York, normalement, la durée de vie, c'est un an. Quoi. Ah oui.
Puis surtout après leur saison play-off où ils les font pas. Enfin, normalement, t'as déjà presque tous les arguments pour le tèche Thibodeau parce qu'il fait un pas
mais
en arrière.
D'avant,
après...
il avait fait une saison incroyable, donc ça compense un petit peu. Non, moi, je trouve que c'est plutôt
après,
assez logique.
Ils ont payé très 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 cher au moment où ils le signent. Je crois que c'est le coach le mieux payé de la ligue, même si ça a changé
tous les mois. Ça.
Ouais, voilà, ça a changé depuis, mais à ce moment-là, personne n'a compris le move de prendre Thibodeau sur une longue durée à ce prix-là, et finalement, ça fait deux campagnes de play-off assurées.
Et pour finir sur le thème Brunson sous-côté, il faut parler quand même un peu de Dallas. Dallas ne l'a pas vraiment pris au sérieux. Alors, c'est sûr qu'il y avait une question d'effectif, de composition de l'effectif.
On ne pouvait pas savoir, je trouve, moi. On ne pouvait pas se douter que ce mec-là allait faire ça. Hein.
C'est compliqué avec Luka.
Mais qui peut jouer avec Luka?
Déjà, Brunson s'est très bien débrouillé à côté de Doncic, et ça, ce n'était pas donné à tout le monde. Et le fait qu'il est arrivé à jouer quand même pas mal de temps avec le Slovène prouve que c'est un garçon qui est capable de pas trop tirer la couverture à lui non plus. Et il a réussi à se faire une place.
Tu crois qu'il regrette aujourd'hui Dallas ou pas?
Oui, moi je suis persuadé.
Bah, oui, bien sûr.
Ah bah évidemment.
De ne pas avoir trouvé la solution de pouvoir les associer plus que ça, oui.
Quand tu vois le talent...
Ils ont récupéré Irving.
Cette année-là, ils draftent deux joueurs All-Star quand même.
Qui a un style totalement différent pour le coup.
Oui, mais qui fait doublon quand même. Enfin, même s'ils arrivent à jouer ensemble. Hein, mais bon.
Sauf faire jouer les postes 1 et postes 2 très, 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 très bien ensemble. Enfin, sauf si c'est Klay Thompson et Curry. Il n'y a pas 300 milliards d'exemples où ça marche très, très, très bien.
Oui, parce que Klay Thompson et Curry sont très complémentaires et Klay Thompson n'a pas besoin du ballon vraiment. Lui, il peut être sur des catch and shoot. Alors que les
postes 2, en général, en NBA, a besoin du ballon.
Exactement.
C'est un spécial New York Knicks cette semaine dans basket. Get time et nous passons à la partie historique. Back tap to Telfair, but it's a live ball anybody's and the Thunder's going to get a great opportunity here. And one as Brown goes up and tries to stop Harden and cannot. That confidence from beyond the arc. Here's the turnover. They're pointing inside, knocked away by Bridges. What an offensive play by Mikal Bridges. The other way they come. Get the fans out of their seat. Oh, Kobe! And in by Kobe Bryant. The shot came up short. Kobe grabbed it with his back to the basket and put it back over his head for 2 points. Oh, Kobe. And when they bang this in the club, baby, you got to get up. Basket Time spécial New York Knicks. On continue donc et on va poursuivre sur Brunson. Brunson passé de lieutenant de Doncic à franchise player des Knicks. Vous allez me donner d'autres exemples significatifs de ce parcours un peu spécial, parce que c'est vrai que parfois quand on est dans une case, on n'en bouge plus hein, en NBA. On est soit le numéro 1, soit un éternel second. Certains ont réussi à franchir leur cap, à faire leur mue. De qui as-tu envie de me parler, Alex ?
Eh ben, d'un mec qui joue pas très loin, à Brooklyn, justement. Mikal Bridges, ancien coéquipier.
Le joueur préféré de Fred.
Un des joueurs préférés,
un copieur,
sans problème.
Tu savais pas?
Non.
Il l'adore.
Il n'y
a pas une semaine sans que ce nom soit cité dans Basket Time, même si on parle de toute autre chose.
Je le disais avant déjà. Bref, Mikal Bridges donc, qui est devenu en fait la star des Brooklyn Nets alors qu'il était à Phoenix. C'est un garçon qui était avec Brunson à la fac à Villanova. Ils ont gagné des titres ensemble hein, en 2016 et 2018. Mikal Bridges, c'est vraiment, si tu veux prendre le cliché du mec anti-star à la base, généreux, solidaire, qui tire pas la couverture, collectif et tout, c'est ce mec-là quand il atterrit à Phoenix. Il est parfait, il tire pas la couverture à Devin Booker, il l'apprend au meilleur général des parquets de l'époque, Chris Paul, presque son surnom. Et surtout, Mikal Bridges, il a tous les points forts du mec qui est un lieutenant, puisque c'est le terme qu'on a choisi, lieutenant, c'est-à-dire qui va faire toutes les tâches défensives que les autres ne vont pas vouloir forcément faire, comme faisait Scottie Pippen à l'époque avec Michael Jordan. Il ne va pas tirer la couverture à lui, et Bridges était comme ça à Phoenix, avant le gros transfert qui l'a emmené à Brooklyn dans une équipe jeune. Et justement, ce qui était intéressant de voir, c'est si Bridges allait prendre l'opportunité sous la main de devenir un mec, pas seulement juste candidat au titre de meilleur défenseur de l'année, mais aussi un atout offensif. Bah, il est passé quand même de 17 points en moyenne par match à 26 sur la deuxième partie de saison de son transfert. Cette année, il a 21 points en moyenne par match. Mais surtout, moi, j'ai envie de dire que j'ai l'argument imparable par rapport aux autres.
C'est-à-dire ?
Bah, Mikal Bridges, c'est le lieutenant devenu général parce que c'était déjà le lieutenant de sa maman quand il était petit, parce qu'elle l'a éduqué tout seul. Et il avait trois frères.
Non mais
et
l'autre il veut déjà... nous faire chialer.
Tu crois
que ça c'est un
et
atout
il a énormément aidé pour l'éducation de tout le monde dans la famille.
Mais ça tu crois que c'est un argument massu?
Bah,
c'est très beau, bravo.
Ah, okay.
C'est très beau, bravo, mais ça n'a rien à voir avec sa carrière.
En plus je peux pas te rejoindre parce que pour moi c'est pas un général, Mikal Bridges pour l'instant, c'est encore un colonel. Il a pris encore le pli d'être le numéro 1 justement
donc
à cause de son caractère.
Donc qui est le général honnête?
Il y a pas de
mais surtout le problème c'est que c'est une équipe qui
tire par défaut.
Donc c'est une équipe naze, Alex, le problème il performe pas du tout donc
c'est une équipe jeune.
Ouais, bah c'est d'accord.
Jeune. C'est une équipe jeune, il y a beaucoup de potentiel.
Il se marre.
Non mais moi je pensais vraiment que cette année serait révélation en termes de leadership de Mikal Bridges et c'est un peu compliqué quand même. C'est pas aussi régulier qu'on attendait.
J'attends de voir.
Ah mais j'ai pas dit que ça le serait
il
pas.
Il va rentrer dans la porte de l'âge, il a 27 piges. Après, si t'es dans une franchise qui forcément a des difficultés sur le bilan, on connaît un certain Wembanyama, tu peux briller autant que tu veux. Derrière, ça complique aussi le fait d'être un leader et d'être un général.
Ouais, mais Wembanyama, tu sais déjà que c'est un général. Il n'y a pas de doute là-dessus.
Bah, je sais pas.
Mikal Bridges, il
est encore un doute. Il passe pas beaucoup le ballon quand même.
Il shoot de la gaine, c'est pas lui qui les prend.
C'est un général qui se fait servir autant
non,
de fois que lui.
Non, mais sais quand même.
Non, mais tu vois ce que je veux dire.
Non.
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 Tu joues avec les mots là. Tu fais
ton
trublion.
C'est une bonne franchise. Je suis d'accord avec.
Eh oui, tu sais que les années à venir sont les siennes.
Non, mais
si on est obligé de dire à Alex, si on doit désigner un boss à Brooklyn, c'est lui.
Ok, mais bon, c'est un boss pour l'instant qui n'a pas beaucoup d'étoiles.
Ouais, mais c'est un boss qui vient de passer le BAFA et qui sort l'uniforme. Mais c'est quand même lui le boss.
Ok.
Bridges. Oui, Bridges.
Quel exemple as-tu choisi, toi, Sacha, de joueur, donc lieutenant devenu général?
Est-ce que vous connaissez beaucoup de joueurs qui sont passés de 6e homme de l'année à MVP?
J'en connais un.
Ah, moi aussi, j'en connais un parce que. De toute façon,
j'en connais un aussi.
Il y en a qu'un, c'est vrai?
Il y en a qu'un. Ouais, il y en a qu'un, c'est le seul. Je regardais ça. Alors, si on me donne un contre-exemple, je prends, mais j'ai trouvé que ça. Donc, sixième homme de l'année 2011-2012, on va parler de James Harden parce que c'est une métamorphose qui aurait inspiré Franz Kafka pour avoir des refs littéraires, tu vois.
Ah bon?
Et quand tu te transformes de stopper défensif à l'un des meilleurs attaquants de l'histoire de la NBA, vous n'avez pas la ref?
Si, bien sûr.
Bah oui.
Mais pourquoi pas, prends-le au
alors
sérieux.
Vous voyez pas la tête des gens,
tu vois, Sacha, là, ils te prennent pour Jalen Brunson.
C'est pas grave.
Tu vois, ils pensent que t'as pas lu Kafka,
ah non,
frère.
Jalen Brunson a peut-être une chance d'avoir lu Kafka. Mais
plus Jalen Brunson, Kafka, je suis pas sûr. Hein.
Plus je suis sous-côté, plus je performe. Et non, James Harden, c'est l'histoire quand même du mec qui était stopper défensif d'Oklahoma City. Ça, c'est des choses qu'on oublie énormément. C'est que son rôle en sortie de banc à Oklahoma City avec Kevin Durant, avec Russell Westbrook, donc c'était un petit peu la troisième pièce derrière, et même derrière Serge Ibaka, quatrième pièce, c'était le stoppeur défensif. On lui a donné les clés du camion en allant à Houston et qui pouvait prédire que le mec allait devenir juste trop fort en fait, puisqu'après il est devenu MVP, puisqu'après il a été trois fois numéro un au scoring en NBA, puisqu'aujourd'hui c'est le joueur qu'on adore détester aussi parce que c'est lui le système, faut l'avouer que c'est un joueur exceptionnel.
Ouais, et il s'est tellement métamorphosé que hein,
ah bah ça. Ouais, mais au final il assure toujours, il arrive toujours à jouer avec cette limite pour être là quand il le faut.
Oui, en gros il est bon quand c'est pas général quoi. Non, pour résumer.
Ah d'accord. C'est-à-dire il n'a pas, alors, bah, il a pas donné des carrières
bon,
à Houston.
Il est bon, il fait des perfs, il avance, alors, il est pris au sérieux quand c'est pas le général.
D'accord. Je vous propose général, juste mais de revenir
c'est un mec
sur...
qui devait devenir général quand
non,
même.
Mais attendez les gars, on se rappelle de avec qui James Harden a joué aux Rockets pour aller en finale de conf. Est-ce qu'on se rend compte du nombre de carrières
avec lui-même?
Non mais attends, le mec a donné des carrières à des joueurs qui n'auraient jamais rien fait sans James Harden.
C'est pas un général James Harden.
Mais attendez les gars, on parle d'un mec qui fait des saisons en étant meilleur scoreur, meilleur passeur. Juste, qui fait ça? Voilà, merci. Il n'y a pas de réponse. C'est tout ce que je voulais entendre. On parle d'un mec qui donne des carrières à des gars qui
s'appellent... Au sérieux, en fait.
Il y a des gars qui s'appellent Daniel House. Est-ce que tu sais où il joue aujourd'hui? Est-ce que les mecs comme Popcorn... Est-ce qu'on sait Clint
Daniel
Capella
House, il joue au Sixers, non, non
bah, on va tous trouver... Non, mais le jeu, c'est de trouver un joueur lambda avec qui une star a joué, en fait.
Non, mais attendez, Harden, il a donné des stats et une carrière à tous les mecs qui l'ont entouré à Houston, peu importe qui étaient ces mecs-là. Faut arrêter un peu. Clint Capella, le gars, il a fait toute sa carrière sur James Harden. Aujourd'hui, je me le supporte tous les soirs, il me casse la tête.
Il est
je peux
blessé,
dire
là.
Que c'est un joueur moyen.
T'abuses, il est blessé en plus en ce moment.
Ouais, bah, je peux dire. Non, mais je l'ai regardé très souvent jouer. Et c'est un mec qui est juste anti-compatible avec la NBA d'aujourd'hui, mais il a une carrière parce que James Harden lui a fait faire des doubles-doubles à foison.
Mais moi, je suis pas en train de te dire qu'il est pas général à Houston. C'est pas du tout ce que je suis en train de te dire. Tu dis juste que il est bien meilleur quand il se met au service de l'équipe et qu'il fait ce qu'il doit faire pour
mais
gagner.
Mais dans quel monde il se met au service de l'équipe?
Les
Clippers sont la meilleure équipe de la ligue parce qu'il fait ça. Aux Sixers, c'est lui qui porte Embiid en playoff.
À la fin de la carrière d'Harden, c'est ça que tu retiens, l'image de lui?
Non, c'est la barbe, non? Non mais... je retiens rien d'Harden.
Franchement, voilà, tu retiens moi, rien, j'étais sûr que ça allait partir comme ça parce que James Harden, de toute façon, c'est la facilité de la détestation
exact,
NBA.
Mais tout contre Russell Westbrook. Je suis en train de te dire mais qu'il est très bon aux Clippers. Arrête de dire n'importe quoi, je suis en train de te dire il est exceptionnel aux Clippers.
Mais il a toujours été exceptionnel. Il n'y a pas un moment où il n'a pas été exceptionnel, ce mec-là.
C'est un mec dont le destin...
À côté de Kawhi et Paul, c'est sûr que c'est un général, oui.
Boah, d'accord.
Non, mais arrête, Sacha.
Mais Kawhi,
sérieux.
Mais
la discussion, c'est ce que je suis
alors,
en train de dire.
Attends, Kawhi Leonard, là, il est en revival, il fait une mais saison, attendez, mais absolument dingue. T'es en train de me dire que Harden, le général de l'équipe.
Je ferme
le micro.
Mais attendez, vous me parlez de Paul George, qui sert à rien en playoff. Vous me parlez de Kawhi Leonard, qui joue
violent,
jamais les saisons régulières, et vous les comparez à James Harden, qui prend le titre de MVP. Mais vous êtes sérieux?
En playoff, il a été exceptionnel. Harden
est Kawhi, c'est un joueur.
Kawhi,
reviens quand même sur Terre. Kawhi est dans une autre dimension.
Quand il est là, Kawhi est moins là que James Harden.
Oui,
donc c'est bon, arrêtez de nous parler de lui. Kawhi, en saison régulière, il est en vacances. C'est bon. James Harden, en saison régulière, il fait des saisons à 82 matchs. Ok, il porte toute son équipe, il est meilleur scoreur, il est meilleur passeur.
Combien de matchs Kawhi là?
Après là où je vais venir à ta rescousse.
Saison, je te parle de sa carrière. Regarde la carrière d'Harden et regarde la carrière de Kawhi.
La saison qu'il partage avec James Harden, il a combien de matchs Kawhi, dis-moi.
Ouais, mais
il a raté combien de matchs?
On s'en fout du nombre de matchs,
Mais non,
c'est
tout.
Vous êtes en train de. Mais non, mais vous respectez plus un mec qui joue trois fois en 10 ans qu'un mec qui fait toutes les années, prend des trophées individuels.
Oui, mais celui-là, malheureusement, c'est un exemple très précis où tu peux pas lutter.
Mais bien sûr que Kawhi, il est trop fort quand il le veut. À chaque fois, il l'a démontré.
Bah oui,
c'est
le joueur que les autres suivent.
À chaque fois qu'on l'a compté dehors, il nous a prouvé qu'il était là. Mais arrêtez de me faire croire que Kawhi a porté les Clippers à des trucs de malade. C'est jamais arrivé, il n'était pas là.
Après,
c'est bon, il a fait une fois.
Alex, Harden, c'est quand même le joueur qui devait devenir général un jour, quand même.
Non,
il n'y a rien à regretter dans sa carrière,
non.
même si c'est vrai que c'est un joueur qui peut être exaspérant.
Ça a été l'un des meilleurs généraux de l'NBA.
Tu confonds superstar et général. C'est pas du tout la même chose.
Bah si, parce que le général, il l'était à Houston quand même.
Bah, et le général, il prend des ordres de qui?
Bah du mec qui est au-dessus.
D'accord. Bah, qu'est-ce qu'il a fait Harden à Houston? On lui a dit le basket,
oui,
c'est des stats.
Qu'est-ce qu'il a fait Harden à Houston?
Bah c'est le.
Regarde.
Bah vas-y, regarde.
Oui.
Bah et on lui a dit le basket, c'est des stats. Tu prends des trois et tu vas. Bah ouais, mais alors combien de mecs
tu as envoyé? Moi je suis d'accord avec lui. Je pense que Harden était le général de Houston, mais on a vu où il a amené ça dans son équipe, c'est tout.
Laisse parler Alex, Sacha.
C'est pas un général dans l'âme.
Pourquoi?
Parce que c'est pas du tout la mentalité de ce type de joueur, c'est pas du tout sa personnalité. C'est un mec qui va laisser une trace. Et c'est là la notion. C'est un un excellent joueur, un super joueur de basket, tout ce que vous voulez, mais la mentalité, la trace qu'il va laisser dans l'histoire de la NBA, je pense que ça va être l'un des mecs les plus contestés malgré la dose de talent qu'il a, parce que c'est pas un général. C'est pas ça qu'on appelle
son,
un général.
C'est son attitude,
un général,
c'est ses discussions. Mais
non, mais un général, c'est un David Robinson, c'est un Tim Duncan, c'est ce type de mec. C'est ça, un général. Ouais,
bah, c'est que les mecs sympas qui jouent dans des collectifs de fous, bah, sympa pour eux, c'est facile aussi.
Alex, je suis pas d'accord avec toi. Je vais donner
la parole à Sacha. Antetokounmpo, il est suivi par toute sa team. Ils peuvent faire n'importe quoi. Les mecs se jettent.
Bah oui, mais Antetokounmpo, il fait grave de la merde parfois. Et à un moment donné, il faut qu'il assume aussi.
Il a été suivi quand même. Et après, il a su se mettre en retrait, il a su s'adapter.
Houston, il a été suivi. Ok.
Mais donc, il était général.
Non, mais banalisons pas le fait que le mec, il emmène des peintres en finale de conf.
Il
a failli sortir Golden State.
Fini pour Harden. Passons à Fred. Quel lieutenant est devenu général?
Je sais pas si j'ai vraiment envie de parler du coup, mais moi j'ai choisi.
Là, c'est avec moi que tu vas te friter parce que je sais de qui tu vas parler.
Moi, j'ai choisi Kobe Bryant.
C'est-à-dire, pratiquement, tu as choisi le plus grand, quoi.
Ben oui. Qui okay. est vraiment devenu un général.
Mais est-ce que c'est vraiment un général?
Est-ce qu'il a vraiment été lieutenant?
Ouais, faut laisser Fred parler avant. Bah, parce
oui, oui alors laissez-moi parler tranquillement. Commencez pas à vous chauffer. Je vois le mec des Hawks là à côté de moi qui est très très chaud.
Moi, bon, c'est vrai que quand t'as un survêt des Hawks, tu pourrais quand même moins la ramener quand même.
C'est wow. Il faut se rappeler un petit peu le contexte. Les deux arrivent en 96 ensemble à Los Angeles. Un, parce que chaque signe, il vient de Orlando, il arrive à Los Angeles. Et Kobe est drafté, d'accord? Donc, c'est l'équipe du Shaq. Clairement, la superstar qui arrive, c'est le Shaq avec le jeune qui arrive à côté de lui. En 99, il y a un lockout. C'est pour recontextualiser un petit peu. Et les joueurs, ils commencent à organiser des pick-up games pour s'entretenir un petit peu. Et évidemment, les deux stars qui se détestent un petit peu jouent dans deux équipes différentes. Le Shaq, c'est un mec un petit peu vénère. Il vient d'être viré par Reebok. C'est Kobe est considéré comme le nouveau MJ. Donc, il est bien, bien chaud. Donc, ça commence à se friter un petit peu. Il s'insulte un petit peu. Et chaque fois qu'il prend une faute, Kobe dit, j'en ai marre de cette merde. Juste pour encore une fois, recontextualiser, c'est un peu important. Et Shaq lui répond, bah tu redis un truc comme ça, je te mets une baffe. C'est à peu près ce que je dis à Sacha quand il dit les conneries. Et donc ça commence à bien s'énerver, ça commence à devenir chaud. Et là, Kobe dit la phrase importante. Fuck you, c'est mon équipe, ma putain d'équipe. Alors évidemment, il ne parle pas de son équipe de pick-up game, il parle de l'équipe de Los Angeles. Et là, la petite réponse du Shaq qui me plaît bien, non. On a le droit de dire des gros ?
Des gros mots ? Bon, ah, si
bah, je cite en fait.
Tu les as contextualisés, ça va passer.
Alors le Shaq dit, non, petit enculé, c'est mon équipe, je vais te faire trader. Donc voilà à peu près le contexte qui se passe à cet endroit, à ce moment-là, à Los Angeles. Donc les deux sont en rivalité évidemment, sauf qu'ils vont gagner 3 titres. Et sur ces 3 titres, la première année, Shaq est MVP tout court, plus MVP des finales, donc l'équipe de Shaq. Deuxième année, MVP des finales, Shaquille. Donc équipe de Shaq. Troisième année, MVP des finales, Shaquille. Donc, équipe de Shaq. Et là, qu'est-ce qui se passe? Justement, ça fait péter les plombs à Kobe qui met la pression pour que ça devienne son équipe. Ça deviendra son équipe parce que lui aussi sera MVP. Mais là, des finales de 2009 et de 2010, parce que Shaq ne sera plus là et il sera devenu général.
Mais là où je ne peux pas te suivre, c'est que Kobe a toujours été général. C'est juste qu'il y a eu cette anomalie de deux généraux qui cohabitent ensemble.
Il n'a jamais été lieutenant de quelqu'un, Kobe. Bah, alors, pour ça qu'il est Kobe.
Je répète ce que je dis. MVP des finales, première finale, Shaquille O'Neal.
Mais c'était
deuxième
pas son
finale,
lieutenant
Shaquille O'Neal. Bah,
le fan des Lakers là, est en train de bouillir.
Bah, je suis fan des Lakers aussi.
Mais c'est un joueur qui n'a jamais été le lieutenant de quelqu'un dans l'histoire.
Il n'a jamais voulu et la guerre d'ego a fait... Et la guerre d'ego a fait qu'il y en a un des deux qui devait partir. Il a gagné au final, sauf que sur les résultats, sur les statistiques, sur les performances, Shaquille était numéro 1.
Je sais pourquoi avec Bridges, mais vous avez sorti deux mecs qui ont jamais été des lieutenants.
C'était un lieutenant, pour deux Shaq.
Alors, Alex,
les lieutenants
devenus
généraux au fil des années.
Et bah, il était lieutenant de Shaq.
Je peux pas acheter Kobe.
C'est quoi lieutenant?
Du coup, Harden n'a pas été lieutenant.
Un lieutenant, c'est un numéro 2.
Non. Alors, troisième option, il y avait Westbrook, mec.
Reviens pas à Harden, parce que là, on a un gros dossier quand même à gérer.
Temporal, carrément.
La question est, Kobe a-t-il été le lieutenant du Shaq?
C'était qui le numéro 1 des Lakers? C'est juste ma question. Répondez-moi, qui était le numéro 1? Je viens d'où les Lakers.
Shaq. On a bien compris.
Donc, le numéro 2, c'était qui?
On a bien compris ta démonstration. Il n'y a pas de souci. Elle est tout à fait cohérente. Tu n'es tout de même pas d'accord, Alex?
Bah oui, alors. On parlait de termes militaires, hein, puisqu'on va faire un débat exceptionnel, mais général, il donne les ordres, c'est ce que quelqu'un a dit tout à l'heure.
Non, c'est pas du tout ce qu'on a dit. C'est lui qui a dit ça.
Où tu veux en venir, Alex?
Kobe ne reçoit pas d'ordre, n'a jamais reçu d'ordre, et tu viens de le dire dans ton
annonce. Tu sais qui c'est le général dans une équipe?
C'est le coach, c'est
le numéro 1 de l'équipe. C'est le leader de l'équipe. Et le leader de l'équipe, C'était Shaq.
Ouais, mais justement,
mais c'est, je dis pas le contraire, Shaq était le leader.
Bah, c'est le leader de l'équipe, c'est lui
mais
le général.
Mais si ça a clashé.
Est-ce que Shaq était un vrai général ou c'était juste le mastodonte, le tank?
On est en train de parler entre nous.
Et non, donc, mais Kobe n'était pas lieutenant.
Le truc, c'est que
Kobe était le numéro 2.
Si ça a clashé entre les deux, c'est justement parce que Kobe ne voulait pas être un lieutenant. Bah oui. C'est bien ça le problème.
Et ben, donc vous me donnez absolument raison. Il a tout fait pour ne plus être le lieutenant. Non, il a fait virer Shaq.
C'est juste une question d'interprétation.
Ouais, non, mais après, je suis obligé de rejoindre Fred. Dans le jeu, Shaq a tiré plus pour lui, donc fait qu'il lui donnait un peu ce rôle de lieutenant. Maintenant, est-ce que c'était vraiment son rôle? Est-ce que c'était ce qu'il était?
Le problème, c'est qu'il
n'était pas
la réalité
de lui,
du jeu.
Lieutenant. Je suis d'accord avec toi. Oui. Sauf que la réalité du jeu, la réalité de celui qui possédait, entre guillemets, l'équipe, c'est Shaq.
Le problème, c'est que Kobe, c'est Neo, c'est l'élu. C'est ouais, le c'est mec ça, qui est né exactement. Pour être un leader, comme Karabatic, comme le Shaq, comme d'autres. Il n'y en a pas tant que ça.
Mais il l'a montré après, je suis d'accord.
Oui, mais il l'a montré après, mais on savait dès le début quand même.
En demandant un transfert. Le mec, il refusait de jouer pour la franchise qu'il a draftée. Ça, c'est l'âme d'un
général. Non, c'est quand Shaq pose les finales qu'il pose.
L'âme était là, sauf qu'il faut parler des résultats. Et je suis d'accord avec Sacha. Après, les finales du Shaq, les trois finales, c'est lui.
C'est la confrérie des, c'est la confrérie des grands, c'est la confrérie des intérieurs là, qui s'exprime, c'est tout. C'est
mais
ce
mais
que fait Shaq en Fred, c'est veut qu'on reconnaisse que Kobe a dominé, que le Shaq a dominé Kobe, c'est
non,
tout.
Non, c'est pas ma question. Regarde, je vais te poser une question, Pierre. Pourquoi
tu veux qu'on reconnaisse le mérite du Shaq?
C'était l'équipe de qui en 2000, 2001, 2002?
J'ai compris.
C'était l'équipe de qui?
Le propriétaire qui avait tout le monde.
Bon, vous nous laisserez vos commentaires sous le compte Twitter de Basket Time pour nous pour trancher
c'est un peu trop animé.
Cet excellent
Stephen,
débat.
Quand il est pas là, c'est encore
ouais,
plus animé.
Son sang-froid manque beaucoup.
Non, mais tu sais que Stephen, heureusement qu'il n'était pas là sur Jalen Brunson. Hein. Je pense que ça serait parti en sucette.
Oula.
Allez, on finit par le quiz. Ah, c'est intéressant. Dans les joueurs en activité.
Ah. Le mec sauce sa question. Ah, c'est intéressant.
Bah, qu'est-ce qu'elle est bien écrite cette question, franchement.
C'est pour Julien Lepers.
Ah oui.
Ah ouais, ouais, ouais.
Ah, je sais qui c'est.
Moi,
c'est,
je sais pas.
Je sais qui c'est.
T'as des cerveaux abîmés, c'est pour ça, c'est tout.
Mais non, t'es pas les paysans. T'es un mec de début de Chaumont, toi.
Pas vrai, c'est pas des poissons rouges, c'est des calamars.
Je l'avais lu en plus.
Mais c'est des calamars.
Plus,
Steve, ils sont là, ils attendent que tu donnes la bonne réponse.
Je te tiens, tu me tiens par la barbichette.
Fred, tu me regardais comme ça, j'avais l'impression d'être devant un bocal avec un poisson.
Tu vas me laisser parler.
Le tu peux me laisser parler s'adresser à Sacha, il me semble. Hein.
Oui,
hein.
Sacha me motive toujours.
Il est capable c'est la mouche du coche, Sacha. Il est capable de t'énerver.
Hein. Alors que les gens ne se méprennent pas. Hein.
Je rentre dans la tête de n'importe qui.
J'adore Sacha comme mec, hein. Mais il est insupportable.
j'ai des bâtiments de 6 étages dans la tête de Fred et dans la tête de Steve.
Alors, on y va. On démarre par la culture générale et ça, c'est pour donner des points d'avance à Fred. Ok. Cela dit, il nous a sorti Kafka, Sacha, donc on va voir. Hein. Allez, en 1989, quel film de Spike Lee met en scène les conflits? Excellent. Wow. Do the right thing. Est-ce que tu connais le nom, le titre sous lequel il est sorti au Québec?
Fais la bonne chose.
La bonne chose, la tabernacle.
C'est encore mieux que ça, c'est la pizzeria en révolte. Wow. C'est pas crédible quand même. Hein.
Ah ouais, incroyable.
La pizzeria
sans
en révolte.
Sans force, c'est canadien.
Tu vas pas le voir, non?
Non.
Même avec ça, Spike Lee, bon, je suis pas sûr.
Un des premiers films que j'ai vu, film magnifique.
Un des premiers films que tu as vu? Ah ouais. En 89.
Ah ouais.
Tu n'avais pas beaucoup aussi.
Ben bah non. Non, j'avais pas le temps, on n'avait pas beaucoup d'argent.
C'est un monument, c'est un grand classique du cinéma américain. Donc pour les jeunes, regardez-le. Parce que Najib, qui produit aujourd'hui, ne connaissait pas. Donc je vous conseille, hein, allez voir. Hein. On continue avec un petit blind test. La BO du film.
Tortue Ninja.
Vous l'avez pas?
Public Enemy.
Public Enemy, bien sûr.
Ah.
Bravo Fred.
Ah ouais, voilà.
Oh. Vous vous en souvenez, ça aussi c'est un gros classique hein, quand même. Alex, t'es sous les
géantes.
Avec Flavor Flav.
Flavor Flav.
Un grand point.
Avec son horloge.
Ouais.
Ça fait 2 points pour Fred. Je vous avais dit les questions de culture G, c'est pour qu'il y ait des points d'avance.
Non, bah, dis des questions de vieux direct, ça va plus vite. Avant 89, moi je suis pas né.
J'ai une question. Je peux reciter ce que Shaq a dit à Kobe ou non?
Tu cites. Allez, on va faire la passerelle entre culture G et basket. On reste sur Spike Lee, qui a un film vraiment spécifique sur le basket qui s'appelle He Got Game quelques années plus tard. Et toujours.
Washington.
Toujours Ray Allen.
Jesus Ray Allen. Shuttleworth.
Jesus Shuttleworth est incarné par Ray Allen, mais c'est Alex qui est parti le premier, donc le point est pour Alex. Il est bien ce film, j'ai pas vu moi.
Il est dur un peu. Enfin, c'est pas que du basket en soi, je trouve.
C'est pas mon préféré.
Il gagnera pas la Palme d'Or, mais c'est un bon film.
Est-ce que Ray Allen fait bien le boulot? Sans plus, okay,
c'est pas
compris.
Le meilleur de Denzel ni de Ray Allen.
Il y a la scène mythique, évidemment, quand il visite l'université.
Oui, c'est ça.
Alors, ça fait 2 points pour Fred, 1 point pour Alex. Tiens, un peu d'histoire des Knicks. Quel est, chronologiquement parlant, le dernier maillot retiré aux Knicks?
Starks?
Non.
Oakley?
Non. Houston?
Non.
Latrell, Sprewell,
Ewing,
Larry Johnson,
c'est Patrick Ewing en 2003. Il y a pas eu de maillot retiré depuis.
Ça, ça exactement.
Ah ouais.
C'était un peu l'objet de cette question. Donc tu peux y aller. Ça en dit long sur l'état de.
C'est long et ça en dit long.
Donc ça fait 1 point pour Sacha qui revient dans la course. Tiens, est-ce que vous êtes capable de me dire qui est le 4e choix de la draft 2015? Comme ça là, tac.
Porzingis.
Exactement, Fred. Voilà.
Sifflé.
Ah, voilà encore une histoire de dingue à New York, Kristaps Porzingis.
Alors, pour la petite histoire, c'est un peu à cause de moi.
Vas-y,
parce
raconte.
Que c'était un grand blanc qui avait été signé. Et moi, j'avais été signé en 99 et je n'y suis jamais allé. Donc, j'étais pas content d'avoir un autre grand blanc européen drafté et surtout aussi haut.
Et puis, il prenait pas au sérieux le laiton quand même.
Il prenait pas au sérieux le laiton.
Après,
et il pensait qu'il viendrait pas.
Hein.
Ah oui, bien sûr.
Il est monstrueux, Onyx Porzingis, vraiment.
Après ce mec-là, bon, il y a toujours le problème des blessures. Et là,
physique hors norme.
À Boston, on le voit encore. C'est quand même un souffre d'orge.
Oui, bah justement, ça peut être une belle histoire pour lui.
Donc, c'est Fred qui a la bonne réponse et qui mène 3 points à 1. 1 point pour Sacha, 1 point pour Alex. Question un peu pointue. À l'été 2009, les Knicks récupèrent Patrick Ewing Jr. en provenance des Houston Rockets en échange des droits. De quel joueur?
De Fred Weiss.
Exactement, bravo Fred.
Mais.
Non, mais ce qui m'étonne, c'est qu'en.
Le quiz, c'est la blague.
En fait, juste pour la blague, j'avais arrêté ma carrière déjà.
Non, mais
je reçois
une
notification pour me dire que je suis échangé à Houston, sauf que je ne jouais plus au basket déjà.
Ouais, mais tes droits, ils étaient encore.
Ils étaient toujours actifs.
Ouais, mais jusqu'à.
Toujours
quand,
à New York.
C'était pas juste avant que ça se termine.
Bah, je pense que oui, je pense que c'était à la limite, ouais, pour avoir gagné un petit peu de trucs sur ça.
Ils ont ouvert un tiroir.
Ouais, on a le droit de. Comment il s'appelle déjà celui-là?
Non, mais c'est quoi cette histoire? C'est-à-dire que. Bon, ça veut dire que Patrick Ewing Jr., bon, c'était.
Mais j'ai deux doigts de me dire, je vais aller à Houston quand même, finalement, ça pourrait être sympa. Bon, j'avais arrêté, mais c'était sympa.
Mais 2009, c'est loin quand même.
Ouais, c'est 10 ans après.
On enchaîne avec un vrai ou faux sur Carmelo Anthony. On démarre par Alex. C'est bon, tu connais bien ton Carmelo?
Ouais, j'adore le vrai ou faux.
Ça sert à rien de bien le connaître, hein, je te dis tout de suite. Allez, vrai ou faux sur Carmelo Anthony. À New York, tu sais qu'il portait le numéro 7. Eh bien, il portait le numéro 7 parce qu'à la fac, il était petit et était surnommé le dwarf, le nain, comme dans Blanche-Neige et les 7 nains.
Oh, tu m'effraies.
Est-ce que c'est vrai ou c'est faux?
Je ne sais pas ce qui me fait le plus peur, que ça soit vrai ou que toi tu aies inventé ça.
C'est faux.
C'est absolument faux, oui. Et il portait le 7 parce que c'était le 22 son numéro à la fac, moins le 15 son numéro au Nuggets.
J'aurais une crise horrible là, si c'était vrai.
T'aurais fait une crise d'épilepsie. Non, Sacha, Carmelo est devenu vegan à New York suite à une arthroscopie du genou qui l'a forcé à un régime strict.
Non.
C'est faux, l'anecdote est vraie. Mais elle concerne tous des mailleurs. Oui. Donc tu marques ton point, toi aussi. Et enfin, Fred, lorsqu'il était à New York, l'animal de compagnie de Carmelo était un chameau. Est-ce que c'est vrai?
Et j'ai envie de dire, ça paraît tellement gros et les deux ont eu faux, je veux dire vrai.
C'est tout à fait vrai. Il l'a justifié en disant bah, les gens, ils ont tous un chien ou un chat, moi, c'est un chameau.
Même il devait avoir un grand appartement quand même.
Il y a même une photo qui existe avec son chameau. On en est à 5 points pour Fred, 2 points pour Alex et 2 points pour Sacha. Mais bravo pour votre vrai ou faux sur Carmelo. Hein. Qui a déclaré cette phrase restée célèbre? J'ai une famille à nourrir.
Latrell Sprewell.
Pour justifier d'avoir refusé une prolongation de 3 ans à 21 millions de dollars en 2004. Hein, on est en 2004. Hein. Donc gros contrat.
Mais l'inflation aussi.
Avec les Minnesota Timberwolves. Mais là où c'est un génie, c'est qu'un an plus tard, il était à la retraite quand même.
Ouais.
C'est quand même surréaliste.
C'est un mec.
Il a quand même essayé d'étrangler son coach.
Ouais, hein, il l'a étranglé. Oui. Ouais.
Donc Latrell Sprewell, bon joueur, grand joueur.
Mais fantastique joueur, fantasque, beaucoup de talent. Mais
très aimé à New York.
Oui.
Mais ingérable. Donc on est à 3 points pour Alex, 5 pour Fred, 2 pour Sacha. Tiens, saison 2012-2013, qui finit meilleur sixième homme? On parle de New York.
Quentin Richardson.
Non.
Non.
Aucune idée.
Alors,
Comment je vais vous aider?
2012-2013.
Non. Ouais, 2012-2013, c'est-à-dire la demi-finale de conf contre les Pacers. Vous l'avez pas?
Pas du tout.
Ah, alors je vais vous le donner.
Gallinari?
Non. Non. Cherche pas sur ton téléphone, ça,
non,
c'est
alors
pas
non,
le but.
Non, vraiment pas.
C'est pas le but. Hein. C'est J.R. Smith.
Ah, ouais, j'aurais pas trouvé.
Jean René. Hein.
Quel non. ancien joueur, attention, on approche de la fin. Hein. Et c'est toujours Fred qui a deux points d'avance. Quel ancien joueur des Knicks est actuellement l'entraîneur des Beijing Royal Fighters?
Quel ancien joueur?
Des Knicks qui a marqué, un grand joueur, qui a marqué l'histoire des Knicks.
Hein.
Vous pouvez, si vous le savez pas, non, vous pouvez le trouver par déduction.
Charles Oakley.
Non.
Amar'e Stoudemire.
Non.
Ewing.
Non. Un joueur qui a joué avant d'être entraîneur en Chine.
Kidd.
Alan Houston.
Non.
Qui a joué en Chine avant d'être entraîneur là-bas.
Exactement, ouais. Qui a fini sa carrière
Cambi.
En Chine. Comment tu dis Cambi, non.
Baron Davis.
Non. Ah, il est très connu, hein.
Ah, oh. Prigioni. Non.
Un meneur assez spectaculaire
Prigioni
aussi.
Est sur les bancs.
John Starks. Non. John Starks.
Un peu après, quand même.
Après John Starks.
Les années 2000, là.
Meneur, Knicks.
Quand je vais vous le dire, vous allez être dégoûté. Hein. Parce que là, vous ne l'avez pas, il vous tourne autour du cerveau.
Marbury.
Stéphane Marbury.
Ah oui, en plus, il y a une statue là-bas en plus.
Quand même. Donc, on est à 5 points pour Fred, 3 pour Alex et 3 pour Sacha. Il reste la question multipoint. Un par un, chacun votre tour. Vous allez me donner le nom d'un finaliste 99 avec les Knicks. Et c'est un point à chaque bonne réponse. On démarre par Alex.
Charles Oakley.
Il y en a un certain nombre à trouver quand même. Charles Oakley. Charles Oakley, bah t'es déjà éliminé. Hein.
Putain, ça allait vite. C'est terrible.
Super. Super.
Sacha.
Je vais dire Ewing.
Allez, Pat Ewing, c'est bon. Fred.
Bah, Sprewell, on en a parlé tout à l'heure.
Latrell Sprewell, c'est bon. Sacha.
Ben. Starks.
Starks, bah t'es éliminé aussi. Fred, t'as gagné le quiz, mais vas-y, défonce-le.
Pour la gloire, pour la gloire.
Humilie-les.
Alan Houston, Larry Johnson.
Allez, c'en a deux de plus.
Marcus Camby, on l'a dit.
Marcus Camby, bravo. C'est ta franchise, l'Enix. T'aurais
après,
pu y jouer.
J'ai pu.
Après, t'as pu. Il y a Rick Brunson, le père.
Ah,
le
oui,
papa.
Oui, ah oui.
Eh
ah,
oui.
Moi, ouais.
Après, bon, Ben Davis, Chris Dudley, Chris Child, Chris ça devient Dudley. Plus dur. Oh. Dennis Scott, Kurt Thomas, Dennis Charlie Scott. Ward, Herb Williams et David Wingate. Bravo, Fred. Tu as gagné ce quiz de manière brillante.
Bravo. Merci.
À la semaine prochaine.
Au revoir. RMC Basket Time.